Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous dans 30 minutes. Notre débat du jour, nous reviendrons sur la Coupe d'Afrique des Nations, non pas pour parler football, mais pour dresser un bilan économique et politique de la compétition. C'était d'ailleurs la deuxième fois en 5 ans que le Gabon accueillait la plus grande fête du football africain. Et on se souvient qu'avant la compétition, les autorités assuraient que l'organisation d'un tel événement représentait un atout majeur pour le pays. D'ailleurs, les autorités se sont félicitées du bon déroulement de la compétition. En tout cas, l'opposition affirme que cette CAN et celle de 2012 ont coûté plus d'1 milliard d'euros aux contribuables. Alors diriez-vous que la CAN a été une aubaine économique pour le pays? Vous qui êtes sur place au Gabon, on a évidemment envie de vous entendre ce matin sur l'antenne des RFI. Par ailleurs, sur un plan économique, sur un plan politique, et c'est important, on sait que la CAN était censée, d'une certaine façon, rassembler les Gabonais. La compétition a-t-elle permis d'atténuer la crise post-électorale qui secoue le pays depuis maintenant 6 mois? Vos témoignages, vos commentaires, 33 9 693 693 70 et vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission, la page Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, ce sont vos questions à la rédaction des RFI, vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité, des questions concernant la Roumanie où les manifestations se multiplient. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur notre antenne, vous nous appelez de Conakry en Guinée, on vous écoute.
Tout à fait. Juan, en Roumanie, il y a eu de nombreuses manifestations à Bucarest contre le gouvernement. Ces manifestants ont voulu obtenir le retrait d'un projet de loi qui assouplissait les règles anti-corruption. Ils ont finalement obtenu gain de cause. Mm-hmm. J'aimerais savoir pourquoi le gouvernement souhaitait un tel projet, alors que les manifestants ont obtenu l'annulation du projet. Pourquoi ils continuent toujours de descendre dans la rue?
Ah, effectivement, ils continuent à manifester. Ils étaient à peu près 20 000 hier dans les rues de Bucarest. Mais dimanche, ils étaient tout de même 500 000 dans les rues de la capitale, mais aussi à travers le pays. Alors que, effectivement, vous le disiez, Ibrahim, la veille, samedi, le gouvernement avait annoncé le retrait de ce fameux décret. Bonjour Benjamin Ribou.
Bonjour Juan.
Vous êtes le correspondant d'RFI en Roumanie. C'est du jamais vu hein, dans ce pays. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues en train de manifester, d'exprimer leur colère depuis la chute du régime communiste, donc depuis la fin des années 80. Faut quand même rappeler, Benjamin Ribou, aux auditeurs, que ce décret rendait l'abus de pouvoir passible de prison uniquement s'il provoque un préjudice supérieur à 44 000 euros. Autrement dit, si le préjudice est inférieur à cette somme, eh bien vous n'irez pas en prison. Pourquoi le gouvernement a-t-il voulu alléger les mesures anticorruption?
Oui, c'est vrai que ça semble un peu étrange. Alors ce gouvernement social-démocrate nommé en tout début d'année, il y a à peine un mois, il a tout de suite voulu faire passer en urgence cette ordonnance visant à assouplir la loi anticorruption, soi-disant pour désengorger les prisons roumaines. C'était ça l'argument fort du gouvernement, fort du score important obtenu aux dernières législatives, environ 45% des voix. Il a cru bénéficier d'une légitimité suffisante pour faire passer cela tranquillement, en douce et durant la nuit. Or, les gens ne sont pas dupes. Le Parti social-démocrate est celui qui compte le plus de membres et d'élus condamnés pour des faits de corruption, même s'il est vrai qu'il n'est pas le seul parti de Roumanie à avoir eu des problèmes avec les tribunaux ces dernières années.
Oui, faut dire tout de même qu'effectivement, ces dernières années, plusieurs centaines d'hommes politiques, mais aussi de hauts fonctionnaires, ont été envoyés en prison dans le cadre de la lutte contre la corruption.
Oui, c'est un peu le bon point en Roumanie, ces 5 dernières années. La lutte pour la justice a été un réel succès, en marge des clivages politiques. Ça a aussi été une question centrale durant la campagne des législatives, donc en décembre 2016, il y a 2 mois. À ce titre, le leader du Parti démocrate, Liviu Dragnea, condamné à 2 ans de prison avec sursis, pour fraude électorale, a toujours laissé entendre qu'il voulait être Premier ministre, la législation l'en empêchant. Il a été clair pour beaucoup de Roumains que l'allègement du code pénal allait le privilégier directement et personnellement. Et ça, les gens, ils l'ont pas du tout digéré.
Oui, effectivement. Donc on voyait bien que derrière ce décret, il y avait la volonté de permettre au chef du Parti social-démocrate d'échapper à la justice. Alors les manifestants ont finalement obtenu gain de cause, puisque samedi, le gouvernement a fait marche arrière en retirant ce décret. Et pourtant, comme comme nous le disait à l'instant Ibrahim de Conakry, les Roumains sont toujours aussi nombreux à descendre dans la rue. Comment expliquer cette attitude?
Je pense qu'on assiste à un vrai ras-le-bol. Les sociaux-démocrates ont certes remporté les élections, mais une fois de plus, il a semblé évident qu'ils voulaient en faire qu'à leur tête, avec des mesures douteuses visant à favoriser des personnes condamnées. Les Roumains qui ont pris le goût aux manifestations, faut pas l'oublier, ces dernières années, avec clairement une société civile émergente, ont vu là une grave atteinte à l'état de droit. Mais la mobilisation a quand même surpris plus de 500 000 personnes, vous le disiez un peu plus tôt, dans les rues ce dimanche soir de tout le pays. C'est du jamais vu depuis 27 ans. Les gens se sont unis comme jamais et ont semblé réaliser que c'était là la seule solution face à ce gouvernement social-démocrate. Après, il faut rappeler quand même que l'abstention a été très importante lors des législatives de décembre, puisque 60% des gens ne sont pas allés voter. C'est d'ailleurs l'argument numéro un des sociaux-démocrates et de leurs partisans qui estiment qu'on leur vole actuellement l'élection de décembre. Les gens disent « nous avons gagné largement, laissez-les gouverner ». C'est ce qu'on pouvait entendre devant le palais présidentiel toujours ce dimanche lors d'une contre-manifestation pour soutenir le gouvernement, mais celle-ci, elle n'a attiré que 2000 personnes.
Ah oui.
L'opinion publique est donc clairement contre ce gouvernement. Maintenant, il semblerait que les gens en veulent encore davantage et espèrent que des têtes tombent. Est-ce que ce sera suffisant? Rien n'est moins sûr, car l'appel au calme du leader Liviu Dragnea, leader démocrate, n'a semble-t-il pas calmé grand monde.
Ouais, vous aviez une dernière question, Ibrahim.
Oui, quelles conséquences et revirements peut y avoir sur l'unité et la crédibilité du gouvernement?
Cette marche arrière du gouvernement peut-elle avoir des répercussions politiques en interne?
Il y a déjà une certaine scission à l'intérieur de la société, même si, comme je le disais, l'opinion publique est clairement contre le gouvernement social-démocrate et a eu un basculement. Celui-ci s'abrite derrière le score des législatives pour dire que la majorité silencieuse est de son côté, mais on a bien vu que c'était de l'intox, que c'était pas vrai. Il se pourrait qu'un référendum sur la question de la lutte anticorruption soit organisé, comme l'avait annoncé plus tôt le président de centre-droit Klaus Iohannis. Sa portée dépendrait de la question qui pourrait être posée aux Roumains.
En tout cas, si on comprend bien, vu de Paris, on a l'impression aujourd'hui que les manifestants, ce qu'ils réclament surtout, c'est la démission du Premier ministre.
Oui, c'est ça, la démission du Premier ministre et aussi celle du ministre de la Justice, Florine Yordaquet, afin qu'ils reconnaissent officiellement leur erreur, mais rien n'est moins sûr. Enfin, pour le moment, il n'y a pas vraiment de signe concret dans ce sens-là, mais même de la sorte, rien ne dit que cela calmera les manifestants. Il faudra également juger de la capacité du président Ioannis à calmer les esprits. Laissera-t-il entendre qu'il faille aller encore plus loin, comme cela a été le cas jusqu'à présent? Pour l'instant, les événements de ces jours-ci représentent une victoire importante pour lui, que l'on avait quitté laminé par la machine social-démocrate aux élections de décembre. Rappelons que c'est ce dernier qui, initialement, était intervenu en Conseil des ministres afin de faire barrage à ce projet d'ordonnance d'urgence.
On suivra évidemment avec vous, Benjamin, et vous, l'évolution de la situation en Roumanie. Merci d'avoir répondu à Ibrahim, qui nous appelait de Conakry. Il est 9h18 ici à Paris. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On retrouve un autre correspondant d'RFI, l'État Dakar, au Sénégal. Bonjour Guillaume Thibault.
Bonjour à tous.
Merci d'être en direct de la capitale sénégalaise, correspondant également dans la sous-région. Vous étiez en Gambie lors de la crise post-électorale du mois de décembre et lors du retour d'Adama Barrow, le nouveau président gambien. Et justement, Paul Tarzan de Libreville nous demande comment le nouveau président a-t-il fait fortune dans l'immobilier sous la dictature de Yahya Jammeh. Alors c'est vrai que Adama Barrow était un inconnu du grand public il y a encore quelques mois. Il n'est pas du tout issu du sérail politique, c'est avant tout un homme d'affaires. Adama Barrow a créé donc sa propre agence immobilière, on le dit très riche. Avant de parler d'éventuels liens avec l'ancien président Yahya Jammeh, Guillaume Thibault, parlons d'abord d'argent, car finalement on sait peu de choses sur cette éventuelle fortune du nouveau président.
Et vous le savez, Juan n'impose pas au chef.
Alors,
ses comptes en banque. Adama Barrow veut de la transparence. Peut-être qu'il changera les lois pour obliger les acteurs politiques à le faire. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et oui, il y a beaucoup de rumeurs sur sa fortune, sur l'opulence du nouveau chef de l'État, mais au final, peu d'éléments concrets, et il est difficile d'estimer aujourd'hui les richesses du président élu. On le sait, Adama Barrow est à la tête d'une agence immobilière, Majum State, depuis une dizaine d'années, une agence spécialisée dans l'achat et la revente de terrains. En décembre, l'un de ses associés déclarait « Oui, les affaires sont florissantes, mais on est loin d'être riche au siège de son entreprise. De simples bureaux, pas de climatisation, rien de clinquant. Rien de clinquant non plus lorsqu'Adama Barrow nous recevait chez lui au lendemain de sa victoire, début décembre. Il était pieds nus, il portait un simple polo, un pantalon de jogging dans la cour d'une maison chichement décorée. On est loin de l'opulence annoncée par certains médias. Même constat lors de ses meetings en fin de campagne électorale, Juan. On a vu des milliers de gens réunis pour le soutenir, juste deux ampoules pour se faire voir, une petite sono pour se faire entendre. Adama Barrow est ce que les Anglais appellent un self-made man. Il s'est fait tout seul. Il ne vient pas d'une grande famille, il n'est pas héritier. Il est parti en 2003 en Angleterre. Il était vigile. Il travaillait de nuit pour se payer une formation dans la finance et l'immobilier. Et s'il est à l'aise aujourd'hui, on est loin d'avoir un président milliardaire comme par exemple le président Trump aux États-Unis.
En tout cas, son parcours est effectivement incroyable. Vigile en Grande-Bretagne en 2003, il revient, il se lance dans les affaires. Comment a-t-il pu mener justement toutes ces affaires sans être un proche direct du président Yahya Jammeh ?
Alors, lorsqu'on a rencontré le président Barrow en décembre, au lendemain de sa victoire, on lui a posé la question « Quelles sont vos relations avec Yahya Jammeh ?» La réponse a été très sèche. « Eh bien, il n'y a aucune relation directe entre moi-même et Yahya Jammeh », nous a expliqué le chef de l'État. « Nous nous sommes affrontés dans cette élection, c'est tout, il n'y a aucun lien entre nous. » Un entrepreneur gambien croisé il y a 15 jours à Banjul nous expliquait « Dès qu'un business intéressait Yahya Jammeh, il mettait deux doigts dedans. S'il est difficile de savoir ce que l'ex-président possède aujourd'hui, il y a néanmoins des secteurs d'activité qui l'intéressaient plus que d'autres, notamment le tourisme, les hôtels, l'agriculture. Certains affirment que Jammeh, lorsqu'il voyait une ferme dans son pays, une ferme qui lui plaisait, il disait simplement « Désormais, c'est à moi ». Et aussi tout ce qui est en lien avec l'alimentaire. Jammeh vendait le pain, la viande. Il y a des boutiques dans tout le pays qui portent son nom, qui étaient à lui. Les nouvelles autorités vont d'ailleurs devoir décortiquer ce système Jammeh, car des textes allaient directement dans les poches du président déchu et non dans les caisses de la Gambie. Peut-être que ces enquêtes, le président Barrow veut des audits de tous les ministères, en commençant par celui de l'économie. Peut-être que ces enquêtes mettront à jour des liens économiques entre l'ex-président et des acteurs politiques qui ont pris les commandes de la Gambie récemment.
Voilà donc une des priorités du nouveau président gambien, Adama Barrow. Et on rappelle, et vous le disiez tout à l'heure, Guillaume Thibault, la constitution gambienne n'impose pas au chef de l'État de publier ses biens, ses comptes en banque. Donc pour l'instant, le mystère plane concernant sa fortune. Bonne journée à vous, Guillaume Thibault, correspondant des RFI à Dakar, et on remercie Paul Tarzan qui nous appelait de Libreville. Plusieurs questions concernant la situation dans l'est de l'Ukraine. Vous l'avez certainement entendu sur notre antenne. On a assisté tout au long de la semaine dernière à des combats, à de nouveaux combats, les plus violents de ces derniers mois, entre les forces gouvernementales et les rebelles pro-russes. Bonjour Marius.
Bonjour Monsieur Gomez.
Vous nous appelez d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Tout à fait.
On vous écoute.
J'ai appris récemment que les combats ont repris dans l'est de l'Ukraine entre les forces armées ukrainiennes et les rebelles pro-russes. Je voudrais savoir qu'est-ce qui explique ce regain de violence alors qu'une trêve avait été observée depuis décembre de l'année dernière.
Ah, bonne question. Bonjour Elena Gabrielian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à la rédaction russe d'RFI. En une semaine, on estime à plus de 40 le nombre de morts, le nombre de personnes tuées dans ces affrontements, aussi bien des civils que des militaires. Que s'est-il passé? Comment expliquer ce retour de la violence alors que, comme le rappelait Marius à l'instant, un cessez-le-feu illimité avait pourtant été adopté à la fin du mois de décembre?
En fait, on peut véritablement parler d'un conflit oublié en Europe, malgré ces accords signés en février 2015. C'est un conflit qui n'est toujours pas résolu, ce qui veut dire qu'il y a le risque de reprise des hostilités. Et cette fois-ci, ce regain de violence était sans précédent depuis la signature de ces accords. Et les deux camps s'accusent mutuellement d'être à l'origine de l'étincelle. La ville Avdiivka, contrôlée par l'armée ukrainienne, ukrainienne s'est retrouvée entre deux feux. 20 000 habitants de cette ville étaient privés de l'électricité et de chauffage alors qu'il fait moins 20 degrés en Ukraine.
Cette ville, il faut le rappeler, c'est tout de même l'épicentre des combats de la semaine dernière. Hein.
Absolument. Oui. Et pourquoi cette ville? Parce que c'est une ville stratégique. Elle a été prise par les combattants en avril 2014 et reprise par l'armée ukrainienne quelques mois plus tard. Et Avdiivka est aussi un nœud routier dont les rebelles ont su profiter pour déplacer des armes lourdes. Il faut rappeler aussi le timing qui est très particulier. La reprise des hostilités a coïncidé avec le premier contact téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Rappelons que le nouveau président américain, tout au long de sa campagne, avait fait du rapprochement avec la Russie une de ses priorités.
Donc ça signifie quoi? Que certains ont tenté au sein des pro-russes de relancer les hostilités pour tester un peu l'administration Trump?
On peut pas véritablement dire si c'était des séparatistes pro-russes ou l'Ukraine. Évidemment, les deux camps cherchent à tester la position de nouvelle administration américaine. Kiev assure de riposter aux attaques de séparatistes, mais certains diplomates européens considèrent que c'est plutôt des autorités de Kiev qui, à travers de l'accélération des combats, veulent attirer l'attention de Donald Trump et voir s'il tient tête à Vladimir Poutine comme son prédécesseur.
Ouais, en tout cas, la situation, c'est quelque peu calmé depuis dimanche soir. Marius, vous avez une autre question?
Oui, j'ai une seconde question. Quel rôle joue la communauté internationale, à savoir l'ONU, l'OCDE, l'OTAN et l'Union européenne, pour essayer de résoudre cette crise?
Oui, crise qui en est déjà, parlons pas de crise, on peut même parler de guerre, hein, qui en est déjà à plus de 10 000 morts. Elena Gabrielian, tout le monde s'est inquiété la semaine dernière avec la reprise des hostilités. Concrètement, que font les Européens, les Nations Unies, l'OTAN?
Bah, pour l'instant, comme d'habitude, et surtout l'Allemagne et la France, qui sont les pays intermédiaires pour la signature de ces accords, expriment leurs inquiétudes et rappellent les parties à la retenue. Le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, avait annoncé que le conflit ukrainien était au cœur de la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Quant à l'OTAN, son secrétaire général a sommé la Russie d'utiliser son influence auprès des rebelles pro-russes. Et par ailleurs, cette année, c'est l'Ukraine qui assure la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU et compte utiliser tous les moyens pour faire agir la communauté internationale en faveur de la paix.
Alors, vous parliez tout à l'heure de Donald Trump. Justement, Gustave nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Gustave.
Bonjour, Juan, et bonjour, RFI.
On vous écoute, toujours sur la situation dans l'est de l'Ukraine.
Oui, il y a eu regain de violence à l'est de l'Ukraine, comme on l'a dit là-dessus. Je voudrais savoir quelle est la position de Donald Trump, sachant que pendant la campagne, il disait se rapprocher de la Russie.
Alors, est-ce que Donald Trump et son administration ont réagi après la reprise des combats la semaine dernière concernant le dossier ukrainien?
Oui, c'est assez surprenant parce que Donald Trump, il a laissé entendre que la suppression des sanctions contre Moscou était possible et même l'annexion de la Crimée. Et malgré toute cette sympathie que Donald Trump a exprimée pour la Russie, la première intervention allait plutôt dans le sens inverse. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, lors de sa première intervention devant le Conseil de sécurité, a condamné de manière forte et clair les agissements russes, et en plus elle les a qualifiés d'actions agressives.
Oui, et puis elle a dit, et ça c'est important, la phrase est quand même importante, la Crimée fait partie de l'Ukraine.
Absolument, et il n'est pas question de supprimer des sanctions tant que ces territoires ne sont pas rendus à l'Ukraine. Et en même temps, elle a affirmé vouloir de meilleures relations avec Moscou. Et par ailleurs, Donald Trump a eu un entretien, son premier entretien téléphonique avec le président ukrainien, et il a assuré Petro Poroshenko que les États-Unis travailleront avec l'Ukraine, avec la Russie, avec toutes les parties impliquées pour résoudre cette crise.
Donc ça signifie que sur le dossier ukrainien, bien précis, sur le dossier ukrainien, Donald Trump durcit le ton à l'égard de Moscou. C'est-à-dire qu'on...
En tout cas, pour l'instant, on est sur la même ligne que Barack Obama, malgré les déclarations qu'il avait faites pendant sa campagne électorale.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les autorités ukrainiennes. Merci Elena Anna Gabrielle Lyon. On avait d'autres questions. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Rendez-vous évidemment demain à 8h10, temps universel. Toute la rédaction se mobilise chaque matin à 7h06 pour vous aider à mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité en fonction de vos centres d'intérêt. Vous écoutez la radio, vous souhaitez un complément d'information, eh bien vous nous appelez tout au long de la journée. Le standard reste ouvert. 33 9 693 693 70. Sinon, vous nous envoyez vos questions via les réseaux sociaux et notamment la page officielle de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Dans 10 minutes, on reparlera de la Coupe d'Afrique des Nations, mais on ne parlera pas football, on parlera économie et politique. On verra quelles seront les retombées de la compétition directement pour le Gabon. A tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent. Saul Banks, le lauréat du prix Découverte.